RCF. Tous, bonsoir à tous en direct de RCF Cœur de Champagne, RCF en Sardaigne. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous, tout va bien, les micros
sont
open.
Vous avez vu, j'avais fait un arrêt sur image.
Oui, c'est ça.
Plutôt un arrêt sur micro.
Il y a eu un petit stop, mais bon, ça va, tout roule, tout va bien.
Alors cette émission ce soir est comme d'habitude bien remplie, un agenda chargé, mais digeste.
Avec nos chroniqueurs habituels, notamment le lundi, quand on regarde sur le monde, on est en alternance, tantôt Jean-François Boulanger, tantôt Claude Ruiz. Aujourd'hui, Claude Ruiz va nous rejoindre dans quelques instants et nous emmènera en Ukraine, mais tout en restant en France parce qu'il se demandera s'il faut investir en Ukraine.
Ah, c'est une question un peu originale, hein.
Effectivement, et on verra que la France est un acteur quand même majeur, justement, des investissements, pardon, en Ukraine. Un maire qui vous parle, Jean-Pierre.
Un maire qui nous parle, et vous allez voir, Alexis, c'est un maire qui va être pour vous très sympathique, parce que je sais que vous aimez les pommes.
J'adore les pommes.
Et justement, à Tourteron, pour tous les agriculteurs, c'est le pays vraiment, on pense bien sûr à la famille Lenoble, qui fait beaucoup de pommes, et c'est la ville, le village des pommes. Alors Michel Claude, il est
pommes,
le...
La tarte aux pommes, voilà, la tarte tatin, la compote de pommes, le jus de pomme, tout ce qui est pomme, on prend.
Et il est très sympathique, Michel Claude, il est le maire de Tourteron, on le retrouvera tout à l'heure.
Et puis on fera d'autres découvertes sur le territoire, on ira faire un tour à la Duduchothèque, présenter l'exposition Cabu vive le sport en cette année olympique et paralympique. On ira également faire un tour du côté de Cézanne avec des événements autour de la gastronomie. Le maire de la commune, Sacha Evac, sera avec nous. Et puis Jean-Pierre, nous serons avec un invité exceptionnel, il faut bien le dire, le père André Daher.
Et oui, le père André Daher, qui est responsable de l'enseignement catholique au Liban, qui est aussi universitaire. Il est venu il y a quelques jours à Reims, il est actuellement à Avignon, avant de repartir au Liban pour rencontrer l'enseignement catholique et puis établir des ponts avec les élèves et les enseignants.
18h13, on commence par la chronique ce lundi. Regard sur le monde avec Claude Ruiz. Bonjour Claude.
Bonjour.
Avec cette question que l'on va se poser à l'intérieur de cette chronique, faut-il investir en Ukraine ? Au moment où le conflit entre la Russie et l'Ukraine est dans un équilibre instable, nous pouvons nous demander donc s'il faut investir en Ukraine. Et si jamais on répond oui, qui investit ? Qui a un intérêt à investir dans ce pays ?
En effet, l'Ukraine actuellement, je dirais, deux combats. Un combat militaire, bien entendu, dont les radios se font écho pratiquement chaque jour, et l'autre économique, un petit peu plus caché, un petit peu plus sourd. Et on s'en aperçoit quand on regarde un petit peu la presse économique actuellement en Europe, et on s'aperçoit qu'il y a même des acteurs, c'est le cas en France, où la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne cherche à convaincre des opportunités à ce qu'il y a à investir en Ukraine. Avec, bien sûr, l'appui d'entreprises françaises qui sont déjà installées. On est un petit peu dans ce cadre-là. Et ça veut dire que la guerre n'arrête pas le commerce. C'est quelque chose dont on parle moins et qu'il faut peut-être mettre sur le devant de la scène pour comprendre un petit peu de nouveaux intérêts ou de multiples intérêts dans ce conflit.
Claude Ruiz, vous venez de le souligner, c'est vrai qu'il y a des entreprises françaises qui sont déjà installées. Est-ce que la France est déjà un acteur économique sur le territoire ukrainien donc ?
Oui, en fin de compte, là, on rentre un petit peu dans l'histoire. Ce sont les restes, vous le savez, du rapprochement qu'on a connu à la fin du 19e et au début du 20e, de ce qu'on a appelé le rapprochement franco-russe, puisqu'il y avait un empire russe, que cet empire russe, vous le savez, on cherchait à le faire basculer dans le camp français par rapport aux Allemands. On est toujours un petit peu dans ce conflit d'empire, fin 19e, début 20e. Et c'est très connu un petit peu dans la société française, vous le savez, par un épisode qui s'appelait l'épisode des emprunts russes, où la France a beaucoup investi en Russie, mais avec la Première Guerre mondiale, beaucoup d'investisseurs ont perdu beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il en reste de ces pratiques, de ces liens sur le plan économique ? Mais aujourd'hui, quand même, 180 entreprises, 180 firmes investissent donc en Ukraine. Donc, il y a des restes, vous voyez, anciens, même si, bien entendu, il y a eu des renouvellements. Alors, quels sont les secteurs qui sont visés ? D'abord, la finance. Vous voyez, il y a peut-être une sorte d'héritage un peu historique. Alors, on retrouverait les grandes sociétés que vous connaissez en France, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, qui avait une grande tradition en Russie. Donc, dans la finance, l'automobile, Renault, Stellantis, donc, ont des entreprises... Donc en Ukraine, en agroalimentaire, on cite souvent Auchan, Je vous rappelle Auchan qui, au passage, a ouvert 4 magasins depuis le début du conflit. Donc, c'est pas quelque chose d'ancien. C'est bien entendu une tradition. Ils avaient des installations, mais c'est quelque chose de toujours actif. Et puis, des sociétés comme Lactalis, par exemple, produit laitier qui possède 3 usines, alors que c'est parfois un petit peu plus difficile, vous le savez, pour Lactalis sur le marché européen ou français. Alors, est-ce que c'est l'appât du gain? Est-ce que c'est la tradition? Vous le voyez, avec des couloirs d'investissement, c'est possible.
Claude Ruiz, on parle d'un pays en guerre, avec des coupures d'électricité, des attaques. Est-ce que cela veut dire que toutes ces entreprises ont survécu à ces coupures d'électricité, à ces différentes attaques, etc.?
Oui, je crois qu'il y a des contraintes importantes, des contraintes plutôt sur le rythme de production, vous voyez, et puis d'investissement et de réalisation de ces investissements. Les absences aussi, on cite souvent qu'actuellement, il y a des rotations dans la mobilisation du personnel pour aller sur les zones de combat. Donc, vous voyez, ce sont des personnels jeunes, souvent masculins. Donc, ça peut déséquilibrer, bien entendu, les chaînes de production. Mais cela montre aussi, vraisemblablement, un conflit localisé. Ça veut dire que si ces investisseurs prennent des risques, c'est que, en réalité, les risques ils sont localisés à la frontière, hein, sur la marge, en fin de compte, du combat. Et les médias sont un petit peu, je dirais, s'exprime pas trop sur ces aspects-là. Les médias restent discrets sur le fait, par exemple, que la France est quand même le premier employeur étranger en Ukraine aujourd'hui.
Ce n'est pas rien.
Ce n'est pas rien. Donc, vous le voyez, d'habitude, c'était un marché, on va dire, beaucoup plus germanique. Hein. C'était un espace où les investissements venant d'Allemagne étaient beaucoup plus importants. Donc là, la France l'a dépassé.
Insinuez-vous, Claude Ruiz, que le positionnement économique de la France peut influer sur sa position politique, parce que l'un ne va pas sans l'autre quand même?
On peut le supposer. Alors sur quel, en fonction d'un certain nombre de critères, mais c'est uniquement souvent des suppositions, c'est difficile d'aller plus loin dans l'analyse. La France est quand même le seul pays européen actuellement à avoir missionné un envoyé spécial pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine. C'est Pierre Elbruin qui a été détaché là-bas exprès pour voir comment on pourrait aider ou mettre en place des éléments sur la reconstruction et bien entendu les investissements qui risquent d'être liés à cette reconstruction. D'autre part, on ne fait pas mystère qu'il faut être présent à cette reconstruction dans un futur état que la France veut attacher à l'Union européenne. Et c'est un des pays de l'Europe, la France, qui est le plus attaché à ce système. Et puis, il y a un potentiel de reconstruction qui est énorme. On parle de plus de 500 milliards de dollars. Certains disent que ce serait le plus grand chantier de reconstruction depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc, vous le voyez, il y a de l'argent qui va circuler. On comprend alors certains choix géostratégiques. On ne peut pas faire de lien direct, mais vous voyez, il y a des positions géopolitiques françaises qui sont liées aussi à ces intérêts économiques.
Claude Ruiz, une question avant de vous laisser filer. La France, est-ce qu'elle est la seule à agir de cette manière ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont des positions plus ou moins similaires?
Alors bien entendu, il y a des pays qui ont des traditions de lien avec l'Ukraine un petit peu plus fort. On risque même de rentrer en concurrence avec la Pologne, la Turquie aussi qui joue beaucoup, l'Allemagne, et puis traditionnellement le Japon ou les USA. Mais il y a des méfiances du côté de certains pays, comme l'Allemagne ou les USA, parce que vous le savez, l'Ukraine était quand même, juste avant le conflit, 171e sur le plan de la corruption internationale sur 194 pays. Et puis, vous le savez, les États-Unis sont un peu freiné puisque le fils Biden a eu énormément de problèmes judiciaires.
On en avait parlé d'ailleurs dans une chronique il y a quelques mois.
Voilà, je crois que ces éléments, tout ceci s'explique petit à petit, en nuances, difficile à regarder. Donc la France est-elle plus aveugle ou plus regardante et plus futée, si vous voulez, dans ce cadre-là? Mais enfin, la France est très engagée. Il y a même un organisme public, BPI France, qui prend des assurances risques de guerre quand, si vous voulez, investir en Ukraine. Donc, stimulation, je dirais, du marché. Tout ceci pose la question sur les infos véhiculées, en particulier par les grands médias. Il faut que ces notions économiques apparaissent. Il ne faut pas que ça soit uniquement que militaire ou que culturel, etc. Donc, au total, la maîtrise de l'information, vous le savez mieux que moi, c'est une chose très complexe.
Merci Claude Ruiz de nous avoir éclairé sur les investissements en Ukraine et notamment les investissements français. On vous dit à très bientôt.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h20 ce lundi dans le magazine régional RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardenne. Jean-Pierre, vous êtes avec nous. Si vous voulez bien, je vais vous passer le relais.
Tout à fait. Vous savez, on en a parlé lorsque vous avez présenté le menu de cette édition. Nous avions dit que nous partions dans les Ardennes et dans le sud des Ardennes.
J'ai envie de vous poser cette question. Avec qui êtes-vous, Jean-Pierre, alors, finalement?
Et notre maire aujourd'hui est Michel Claude. Il est le maire de Tourteron dans le département des Ardennes. Michel Claude, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors Tourteron, moi je connais parce que je vois toujours souvent des pommes de Tourteron. C'est dans les Ardennes, hein. C'est connu, mais il n'y a pas sans doute que ça. Alors monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre commune de Tourteron? Combien d'habitants aujourd'hui à Tourteron?
Le dernier recensement date de, c'est tout récent, de janvier 2023. On était 179. Mais depuis, je pense que plusieurs familles sont venues s'installer. On doit frôler les 200, je pense.
Alors, ça veut dire quand même, Michel Claude, que nous avons aujourd'hui une population nouvelle qui arrive dans votre village. Est-ce que c'est un effet Covid, on pourrait dire?
Non, sincèrement, je pense pas. Non, non. On a eu un peu de décès, donc des maisons se sont libérées, ça a été vendu. Des jeunes, c'est beaucoup de jeunes qui viennent se réinstaller. Des personnes entre 20 et 30 ans, des couples entre 20 et 30 ans avec des enfants. Ce qui est très bien pour notre école, évidemment.
Évidemment. Et ça veut dire aussi qu'il y a sans doute des personnes, et en particulier des jeunes, vous le signalez, qui aiment bien être à la campagne en sachant que Tourteron, c'est combien de kilomètres pour le bourg le plus proche?
Alors donc, pour faire rapide, Attigny est à 10 km, Le Chêne 10 km, Charleville 30, Rethel 20 et Reims 60, une soixantaine pour Reims.
On trouve quand même des choses à Attigny, on n'est pas obligé d'aller très très loin, donc on a quand même pas mal de facilité. Alors vous-même, Michel Claude, vous êtes maire depuis combien de temps à Tourteron?
J'ai été élu en juillet 2020. 2020, suite au Covid, ça avait été décalé, les élections, donc juillet 2020, donc jusque mars 2026. Et c'est mon premier mandat.
Mais avant, vous étiez peut-être déjà au conseil municipal?
Du tout, du tout.
Ah, vous êtes arrivé comme ça. Ah oui, alors. Ah oui. Alors, Tourteron, la population, vos 179 habitants, il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a des retraités, il y a les jeunes dont vous parlez. Quelle est la population aujourd'hui de Tourteron?
Moi, je suis arrivé au village en août 86. Il y avait 7 fermes à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en reste plus qu'un. Oh. Par contre, tous les terres sont cultivées, bien évidemment. Ce sont les paysans qui viennent de loin, même de la Marne, pour cultiver par chez nous. Mais oui, il reste seulement un paysan.
Oui, ça, on ne s'imagine pas quand on sait quelque chose de nouveau depuis quelques années seulement. C'est que lorsqu'on est dans un village, on a des terres cultivées avec des paysans, comme on dit, qui viennent de loin
qui
pour cultiver.
C'est
incroyable.
C'est incroyable, c'est vrai.
Est-ce que vous avez dans votre commune, dans votre beau village, Michel Claude, quelques projets? Est-ce qu'on va refaire la voirie? Est-ce que vous allez vous occuper des fleurs? Est-ce que voilà l'embellissement? Certainement des choses.
On a un gros dossier en cours, c'est la réfection de l'église. Par un gommage, c'est le karcher en beaucoup moins agressif pour les pierres. Le gommage, c'est une grosse entreprise de Reims qui va venir nous faire ça pour un montant de 80 000 euros.
Ça coûte cher, hein?
80 000 euros subventionnés quand même à 80%, hein, entre oui. la Comcom, le décret de prêt à Ardennaise, le département, l'État, on n'aurait que 20% de notre charge.
Alors c'est vrai que certes les églises sont moins utilisées aujourd'hui, mais tout de même dans un village ça fait partie du patrimoine et il y a encore beaucoup de personnes qui se rappellent des obsèques de l'un, de la communion d'un autre, et qui pour telle ou telle cérémonie veulent revenir à Tourteron, revenir à leurs racines. Ça, c'est très important pour le village.
C'est juste, puis notre église, c'est une belle église, l'église est classée. Est classée tout comme trois croix de chemin, on a trois croix de chemin qui sont classées, donc on fait pas n'importe quoi dans le village.
Ça veut dire aussi que vous avez autour de vous, au conseil municipal, une petite équipe qui vous aide. En particulier, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à l'embellissement. Est-ce que vous êtes candidat pour une fleur, une deuxième fleur? Est-ce que vous êtes dans cette catégorie de concours? Non, pas forcément.
On l'a eu il y a une paire d'années avant moi, donc deux mandats avant moi. On avait obtenu une fleur. Et cette année, je crois qu'on en parle sérieusement. Je crois qu'on va refleurir un peu le village. Ça serait plus accueillant, bien évidemment.
Est-ce que le maire aujourd'hui, on les dit souvent avec les agriculteurs en ce moment, qui manifestent, même si en ce moment c'est le salon de l'agriculture, des gens qui se plaignent un peu de dire, bon, ben, il y a quand même beaucoup de formalités administratives pour le maire d'aujourd'hui.
C'est un travail quotidien. Moi, j'ai la chance d'avoir une super secrétaire de mairie. Elle fait un travail époustouflant. Heureusement qu'elle sont là, cette secrétaire-là, parce que ce ne serait pas possible. Hein. On dormirait à la mairie. Hein.
Parce que finalement, vous, c'est peut-être indiscret, mais vous êtes encore en activité, vous, Michel Claude.
Non. Je suis pensionné, comme disent nos amis belges.
Parce que on a remarqué, les auditrices et les auditeurs de RCF le remarquent bien évidemment, lorsque nous sommes avec eux, avec les maires, il y a quand même une distinction entre les maires qui ont une activité professionnelle et qui ont du mal à travailler comme maire. Parce que pour prendre des rendez-vous de réunion, par exemple, en journée, quelqu'un qui a une activité professionnelle, il est quand même un peu coincé.
Ça doit être super compliqué, oui, tout à fait. Je vois pas comment j'aurais pu cumuler les deux.
Et avec la communauté de communes, c'est vrai que la communauté de communes a des responsabilités nouvelles, mais le maire, il reste, on le dit souvent dans cette émission, il reste quand même le patron dans sa commune.
Dès qu'il arrive quelque chose, la première personne qu'on cherche à contacter, c'est le maire. Quoi qu'il arrive, des bonnes ou des mauvaises choses, c'est le maire.
Ça veut dire que dans le maillage, on parle toujours des ministres, des députés, des sénateurs, bon, qui jouent leur rôle et qui jouent leur mission. Évidemment. Mais le maire dans une commune, c'est celui qu'on voit, qu'on contacte. Vous connaissez tout le monde, vous-même, à Tourteron.
Évidemment, oui.
Et vous-même, vous étiez habitant, vous êtes né à Tourteron, enfin vous êtes d'origine?
Ah non. Mon père travaillait à la SNCF tout comme moi. Donc on a fait la Meuse, on a fait la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Haute-Marne. On est arrivé dans les Ardennes en 71.
Mais vous avez été adopté finalement.
Oui, oui.
Par les Ardennais. Parce que bon, les Ardennais, c'est un tempérament, c'est une façon de faire. Une fois qu'on fait partie un petit peu de la famille des Ardennaises et des Ardennais, on fait partie, j'allais dire, de la famille.
C'est vrai. C'est vrai, je me souviens quand j'étais contrôleur SNCF, que je vais, et on allait à Valence dans le sud, donc on leur parlait des Ardennes, ils avaient presque peur. Hein. Ils disaient, mon pauvre, et ils pleuraient en nous regardant, hein, en se disant, c'est quoi ce département-là?
Ça me fait penser à un maire qui est d'une commune voisine de la vôtre qui nous disait qu'un jour, une journaliste du Monde était venue faire un reportage sur une commune ardennaise. Elle était habillée d'ailleurs avec un double manteau de fourrure, croyant arriver en Sibérie. Et, et elle regardait les Ardennais comme des êtres un peu sauvages. Et ça fait les délices de Yanni Huro, hein, dans la buquette de l'Ardennais.
Oui,
mais pour conclure, puisqu'on arrive au terme de notre émission, est-ce qu'on peut dire, Michel Claude, vous qui êtes maire de Tourteron dans les Ardennes avec ces fameuses pommes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un maire heureux, finalement?
Oui, sincèrement. Ça me passionne comme tâche, mais c'est vrai, ça me plaît. J'ai la chance d'avoir quand même des administrés sensibles à ce qu'on fait. Je pense qu'ils s'en rendent compte. C'est un métier de tous les jours, quand même. Hein, ça.
Et puis ils doivent se rendre compte eux-mêmes de l'investissement que ça représente et de la passion que vous y mettez. En tout cas, merci Michel Claude d'avoir été avec nous. Maire de Tourteron, là où il y a de très très belles pommes. Et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Et puis sans doute que dans quelques semaines, on aura l'occasion de vous retrouver avant la fin de l'année. Ça donnera l'occasion de redonner un petit coup de projecteur sur Tourteron et le département des Ardennes. Voilà, ben c'était bien d'aller faire un tour à Tourteron.
Ah ben nous, on aime bien aller dans les Ardennes, on a mangé des pommes, et puis ça va être encore le moment d'en manger encore quelques-unes.
Mais on aime bien aussi aller dans le département de la Marne, du côté de Vitry-le-François, du côté du lac du Derve.
Mais dans la Marne, on est plus raisin que pomme, Jean-Pierre.
Oui, c'est vrai, on est plus raisin que pomme.
Plus champagne que cidre.
On salue quand même tous ces viticulteurs qu'on apprécie dans tous ces villages autour de Bouzy. On pense bien sûr à Bruno Rigobert, mais on peut en penser à
d'ailleurs, Jean-Pierre,
d'autres.
Vous parlez de Bouzy, je me permets, ça me frappe comme ça. J'ai entendu dire allait avoir une mission prochainement du côté de Bouzy.
Absolument, une mission qui va démarrer le samedi 13 avril et qui va se poursuivre jusqu'au 18-19 avril. Alors on va de
dans
Verzenay,
l'ensemble de l'espace missionnaire.
Dans l'espace missionnaire, il y a plusieurs visites et d'ailleurs on retrouvera le programme. Ce sera, je crois, mercredi matin avec Bruno Rigobert qui nous en dira plus. On en saura plus. Mais si on regarde la montre, parce que on est quand même à l'heure sur RCF, c'est le journal régional avec Alexis Claudretz en direct.
Thank you.
Les titres de ce lundi 8 avril. Pendant tout le mois d'avril, le groupement départemental de gendarmerie de la Marne mène des opérations de contrôle sur l'ensemble des routes du département. Explication. Parmi les initiatives étudiantes de l'Institut catholique de Paris, dans le cadre de leur module Habitus, un groupe d'élèves de L2 Infocom organise demain un barbecue végétarien pour sensibiliser à la nourriture végétarienne. Présentation.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
On parlait, Jean-Pierre, il y a quelques instants des départements de la Marne, des Ardennes, mais ça concerne aussi nos amis qui nous écoutent dans Haute-Marne, qui nous écoutent dans l'Aube. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes allé faire un petit tour ce week-end et que vous avez remarqué qu'il y avait du sable sur votre voiture?
Oh, absolument. Et comment? Il y avait du sable déjà dès samedi et il y en a eu de nouveau dimanche.
Effectivement, avec même quelques résidus encore en matinée.
Et même lundi matin.
D'une tempête de sable venue du Sahara qui a touché tout notre territoire ce week-end. Et parfois, on est tenté de laver nos véhicules, évidemment. Attention! Attention à ne surtout pas les passer au rouleau, parce que vous le savez, les grains de sable fin s'éparpillent, ça s'écrase sur le véhicule et effectivement ça raye la carrosserie. Il faut donc privilégier les jets à haute pression, tout comme si vous faites vos carreaux, parce que le sable ne se dépose pas que sur les voitures. Vous faites les carreaux chez vous, le sable est venu se déposer. Attention, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais si on peut faire partir un petit jet d'eau depuis le haut de la fenêtre et puis faire couler pour enlever tous les grains de sable avant ensuite de frotter avec le produit à carreaux, c'est que les petits trucs et astuces, les bons conseils de grand-mère, on va dire, pour sauver nos carreaux et nos véhicules. Depuis le début de l'année, la sécurité routière est une priorité du préfet de la Marne, Christopher Fausten.
Face à l'augmentation des chiffres de la mortalité routière, le groupement départemental de gendarmerie de la Marne mène des opérations de contrôle pendant tout le mois d'avril sur l'ensemble des routes du département, comme nous l'explique David Berthoux, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Marne.
Des chiffres catastrophiques. Le bilan de la sécurité routière en 2023 n'était pas bon et le début de l'année est catastrophique. On déplore déjà 11 morts dans le département depuis le 1er janvier, avec souvent des accidents qui sont justement causés par la vitesse, par l'alcool, donc les causes bien connues qu'on retrouve systématiquement. Cette opération Avril Bleu menée par la gendarmerie, une action qui pour le coup se veut répressive, s'imposer évidemment pour permettre un sursaut et mener vraiment une action forte et visible de manière à faire prendre conscience à nos concitoyens que le danger sur la route est bien réel et qu'il nous touche de plein fouet en ce début d'année.
David Berthoux nous présente l'opération nommée Avril Bleu en Marne.
Alors aujourd'hui ce sont 80 gendarmes marnais qui sont déployés sur le département, avec une action donc spécifique sur les conduites addictives, stupéfiants et alcool, hein, qui figure en bonne place, pratiquement égalité avec la vitesse dans les causes d'accidents mortels dans le département. Mais c'est bien tout le mois d'avril qui est concerné par cette opération et qui va concerner plusieurs sujets. Hein. Vous avez les accidents liés à la vitesse. On arrive au printemps, c'est les beaux jours. C'est vraiment le moment de ce sursaut auquel le préfet de la Marne appelle tous les Marnais pour mettre fin à cette spirale vraiment, vraiment dramatique des accidents de la route dans le département.
En parallèle, des actions de sensibilisation auront lieu en milieu scolaire, dont une qui a eu lieu cet après-midi au collège Côte-le-Gris à Épernay.
Christopher Fausten depuis Moncey-Longevin, près de Châlons, en Champagne. Peut-être qu'on dit Longevin, Jean-Pierre, vous connaissez le territoire. Moncey-Longevin.
Oui.
Il y a Thierry, notre joker, qui est là, qui connaît bien
le lac. Oui, c'est du côté de Châlons.
Longevin, tout court.
Voilà, on prend des risques comme ça. En tout cas, un grand merci à Christopher Fausten. Demain, mardi 9 avril, le cloître de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, va devenir le lieu d'accueil d'un projet étudiant. En effet, dans le cadre de leur module Habitus, des élèves de la deuxième année de licence Information Communication organisent un barbecue végétarien pour sensibiliser à la nourriture végétarienne. Agathe, Déborah et Émile.
Le but est de faire découvrir des modes de vie alternatifs, dits végétariens. Et on s'est dit quoi de mieux que de présenter directement les modes de vie végétariens en faisant goûter aux élèves, notamment pour ceux qui ne le connaissent pas, plutôt que de faire une conférence qui peut être un peu fastidieuse et ennuyante.
Donc concrètement, ce qu'on va faire dans le barbecue végétarien, c'est qu'on va laisser le choix aux participants de soit prendre un hamburger, soit de prendre des saucisses végétariennes, et en accompagnement, une salade. Donc soit une salade de pâtes, soit une salade composée, à base, par exemple, ça d'iceberg ou de mash, ça on ne sait pas encore. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça? C'est parce qu'on sait, ça nous touche tous, on en entend beaucoup parler dans le cadre de nos études, mais la crise environnementale est vraiment majeure. Et une des principales sources d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, notamment du méthane, c'est l'élevage intensif. Et réduire notre consommation de viande sans forcément adopter définitivement une alimentation végétarienne peut permettre de réduire ces productions de gaz à effet de serre. Et nous, on se dit qu'on peut essayer de mettre ça à portée étudiante, de faire en sorte que les étudiants agissent dans leur quotidien en leur montrant que les alternatives végétariennes ne sont pas mauvaises, ne sont pas désagréables et ne sont pas plus coûteuses. Et je tiens aussi à préciser que notre événement est ouvert à tous et que n'importe qui peut y participer à partir du moment où c'est une personne de l'ICP. C'est-à-dire que tous les étudiants sont conviés, le corps professoral est convié, les membres de RCF sont conviés. Tout le monde est le bienvenu.
Tout à fait. Si vous êtes intéressé par l'événement, vous pouvez directement nous rejoindre sur TikTok et prendre le lien Lydia. C'est à seulement 4 euros. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir. Vous serez accueillis évidemment et je pense que vous sortirez changé de cet événement.
Des propos recueillis par Nina Aldeia dans l'émission Bulles étudiantes diffusée mercredi dernier. Une émission que vous pouvez retrouver sur le site rcf.fr dans la rubrique programme en sélectionnant votre radio RCF France-Ardennes. L'événement ouvert aux personnes fréquentant l'ICP est organisé de midi à 14h, 4 euros par participation. Et puis on va parler sport maintenant, Jean-Pierre. C'est chez les grands du cycliste international Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Poulidor.
Raymond Poulidor.
Dominé la classique Paris-Roubaix ce dimanche. Chez les espoirs, c'est le Britannique Joseph Blackmore qui a remporté la 49e édition du Circuit des Ardennes. Le coureur de l'équipe Israël Première Tech s'est aussi offert la victoire d'étape Sedan-Sedan et a profité des bonifications pour dépasser au général le Danois Mathias Brengo, tenant du titre. En sport collectif, en volley d'abord, Chaumont n'a pas fait de détails samedi soir avec une victoire 3-7-0 sur le parquet de Paris qui lui a permis de remporter la série 3-0 et de se qualifier pour les demi-finale des play-offs de Liga. En basket, le Champagne Basket s'est imposé 90-86 après prolongation sur le parquet d'Orléans. Une quatrième victoire consécutive qui fait grimper l'Alliance champenoise à la 8e place du classement, synonyme de qualification en play-off pour le moment. En revanche, en Ligue féminine, il n'y a pas eu de miracle pour les Flammes Carolo qui ont pourtant fait leur part de travail lors de l'ultime journée de la phase régulière en s'imposant 79-73 à la Roche Vendée. Mais dans le même temps, la victoire d'Angers oblige les Ardennaises a terminé 9e et a disputé les play-downs cette saison. Un mini-championnat à 6 équipes lors des prochaines semaines qui verra la dernière d'entre elles être reléguée en Ligue féminine 2. Football Ligue 1, match nul et vierge, 0-0 pour le Stade de Reims face à Nice, un point engrangé qui permet aux stadistes d'être 7e du classement. Et on finit par vous donner un rendez-vous football en match décalé de la 31e journée de Ligue 2 ce soir à 20h45. 3 se déplace à Auxerre. Et là, c'est une information qui vient de tomber de nos confrères de l'Union, la coach du Stade de Reims féminin. On ne parle pas du Stade de Reims masculin, on parle bien du Stade de Reims féminin, mais c'est quand même une pointure. Amandine Miquel, qui officie depuis 2016-2017, qui a fait remonter les rouges et blanches de cette époque pionnière, de notamment de D2 en D1 et qui les a portés vers les sommets et qui cette année lutte pour être dans les 4 premières, synonyme là aussi de play-off et pourquoi pas de qualification en Coupe d'Europe. Son contrat s'arrêtait à la fin de cette saison. D'après les informations de nos confrères de l'Union qui viennent d'envoyer la notification push, Amandine Miquel devrait prolonger d'une saison au Stade de Reims. Le contrat devrait être paraffé, si ce n'est déjà fait, dans les prochaines minutes. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Rendez-vous incontournable du printemps à Chalon-en-Champagne, la nouvelle exposition de la Duduchothèque, un espace dédié au dessinateur chalonnais Cabu. Après le théâtre en 2021, les présidents en 2022 et Dorothée en 2023, place au sport pour 2024. Pascaline Vattier, directrice de la Duduchothèque, avec Christopher.
Bonjour Pascaline.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette nouvelle exposition Cabu, vive le sport. On en parle dans un court instant. Un petit rappel pour nos auditeurs qui viennent peut-être pas spécialement de Chalon. On va s'intéresser aux auditeurs champardonnais. Quelques mots sur ce lieu incontournable pour Chalon-Champagne.
Lieu incontournable pour Chalon-en-Champagne, alors je vais même aller plus loin, lieu incontournable pour la France, l'Europe, le monde entier, c'est la Duduchothèque qui est née en décembre 2018, qui est dédiée à l'œuvre de Cabu, Cabu, dessinateur de presse, né à Chalon-sur-Marne.
Plusieurs expositions, on a eu beaucoup d'expositions, notamment Dorothée, les présidents lors de l'année des élections présidentielles. Cette année, le sport, bon forcément un thème bien choisi par rapport aux JO.
C'est ça, on essaye de s'inscrire dans l'actualité, et l'actualité journalistique et sociétale de l'année, il nous a semblé que c'était les Jeux Olympiques et le sport en général. Ça nous permet de créer aussi un peu la surprise, parce qu'à Cabu, on imagine très peu sportif, et pourtant, il s'est bien amusé en dessinant absolument tous les sports.
Inauguré vendredi dernier, lancé samedi dernier, on est aujourd'hui lundi, c'est l'exposition qui va durer pendant plusieurs mois.
C'est ça, jusqu'à la fin de l'année, à découvrir, donc du mercredi au samedi, 14h-18h, et un dimanche sur deux.
Cabu, vive le sport. On retrouve toujours ce lieu organisé de la même manière, rez-de-chaussée, premier, deuxième étage. Au rez-de-chaussée, on va retrouver le côté sport vu par deux personnages chalonnais.
Deux personnages chalonnais que tout le monde connaît, en tout cas je l'espère, mais si c'est pas le cas, eh ben, qu'on va vous faire découvrir, c'est le beauf et le grand duduche. Alors avec le beauf, le sport est plutôt vécu depuis son canapé, mais il permet à Cabu de dénoncer plusieurs aspects négatifs, également qui vont avec le personnage beauf, c'est tout ce qui est racisme, misogynie, etc. Avec le grand duduche, le sport est beaucoup plus subi. C'est le sport qui va permettre de faire des rencontres, mais surtout beaucoup de blagues, beaucoup de gags.
Autour de la pétanque notamment ?
Autour de la pétanque et du basket.
Voilà. D'ailleurs, on retrouve ce terrain de pétanque ici, à la Duduchothèque. Au premier étage, on va se concentrer un peu plus précisément sur les Jeux Olympiques et le Tour de France.
Exactement. Avec les Jeux Olympiques, on a vraiment le côté des différents JO que Cabu a pu connaître, des reportages, la dénonciation de la pollution. Cabu écologiste, ça va forcément dedans. Et puis la surexploitation aussi des sportifs. Avec le Tour de France, on est sur le dopage.
Et enfin, dernier étage, un des sports, on peut dire, populaires de notre pays, c'est le football.
Du foot et du foot. C'est vraiment ça, c'est notre espace ludique, donc vous allez pouvoir jouer au foot avec vos pieds, vos doigts, vos mains, tout ce que vous voulez. Et ça crée la surprise, ça.
Tout à fait.
On est aussi sur des moments où on va pouvoir revivre les moments clés du foot en France et toutes les émotions qu'ils vont nous procurer par rapport à autant les supporters que les grands matchs.
Pascaline, combien de dessins allons-nous retrouver ?
Alors, 209 dessins. Mais oui, parce qu'on en a mis partout, vous verrez. Il y a vraiment de tout. Il y en a plus dehors. Il y en a sur la façade. Il y en a au sein de la médiathèque qui est accolée à la Duduchothèque, dans les toilettes même. Enfin, on s'est vraiment fait plaisir. C'est plusieurs mois de préparation. Et c'est surtout quelque chose qui est très important pour nous et pour la famille. C'est une exposition participative, collaborative, dans la mesure où on est de nombreuses personnes à y avoir travaillé.
En tout cas, bravo, belle exposition à vous, Pascaline. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, directrice de la Duduchothèque, on rappelle à nos auditeurs que l'exposition est ouverte. Ça y est, on rappelle les horaires ?
On rappelle les horaires du mercredi au samedi, 14h-18h, premier et troisième dimanche du mois. Et pour tout ce qui est scolaire et visite de groupe, c'est le lundi, le mardi et les matins.
À retrouver donc à Châlons-Champagne, Cabu, la Duduchothèque, 68 rue Léon Bourgeois, Châlons-Champagne. Merci Pascaline.
Merci à vous.
Pascaline Vattier et Christopher Fausten. Pour en savoir plus sur Cabu, rendez-vous sur le site cabu-officiel.com.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h44, Jean-Pierre est toujours avec nous, avec un nouvel invité en studio, le père André Daher de l'ordre Antonin Maronite, qui vient du Liban et actuellement, il fait la tournée des établissements catholiques en Champagne-Ardenne. C'est la rencontre du soir.
Père André Daher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes accompagné d'ailleurs, peut-être il interviendra tout à l'heure, de Jean-Christophe Bobin, responsable de la pastorale dans l'enseignement catholique dans le diocèse de Reims et de Châlons.
C'est bien ça, bonjour Jean-Pierre, merci pour de nous accueillir ce matin.
Alors Père André Daher, vous êtes Libanais d'origine, vous avez toujours vécu au Liban, quel est un peu votre parcours ?
Je suis Libanais et en même temps je fais partie de la communauté des Antonins, Saint-Antoine-le-Grand, le Père du désert. Et j'ai la responsabilité actuellement d'un établissement catholique au Liban qui accueille des élèves de toutes les 18 communautés religieuses qui sont au Liban. Et en même temps, je coordonne le réseau de nos écoles de l'ordre Antonin Maronite. Et dernièrement, ça fait un an et demi que l'évêque de Tripoli au nord du Liban m'a appelé pour diriger l'ensemble des établissements scolaires dans ce coin du Liban. Et ça fait plus que 22 ans que j'essaye de tisser des liens et de monter des ponts avec des établissements scolaires en France, car nous avons toute une histoire avec l'Église de France et des liens entre le Liban et la France, ça fait des décennies, et on croit beaucoup à la francophonie. Et nous sommes convaincus que l'Église ne peut pas respirer qu'à partir de ces deux poumons, le poumon oriental et le poumon occidental. Et dernièrement, avec les crises qui ont touché le Liban, avec la révolution, l'explosion du port de Beyrouth, la pandémie qui a affecté l'ensemble du monde et plus précisément le Liban, et la crise politique, je ne vous cache pas, c'est grâce à des Français, à des catholiques et plus précisément l'œuvre d'Orient, nous avons réussi à survivre, pas simplement à vivre, et laisser les portes de nos établissements ouvertes pour nos étudiants.
D'où les contacts, Jean-Christophe Aubin, avec le terrain ici localement. Vous êtes allé, vous allez dans les établissements.
Moi, j'ai eu l'occasion d'aller trois fois au Liban, un merveilleux pays très chaleureux qui nous accueille vraiment de façon extraordinaire. Et il y a un amour de la France. Moi, ça m'a toujours beaucoup touché. Et donc, effectivement, comme dit le père Adrère, l'Église n'existe pas sans ses deux poumons. Moi, ma mission, ça a été aussi comme délégué de l'œuvre d'Orient pour le diocèse de Reims, eh bien, c'est de mieux faire connaître les chrétiens d'Orient. Et donc, quand il y a eu l'explosion à Beyrouth, alors j'ai eu l'occasion de contribuer avant cela avec le père Daher, lorsqu'on a monté un jumelage, j'étais à l'époque APS à Bourg-en-Bresse, mais quand je suis arrivé à Reims et qu'il y a eu cette explosion, j'ai repris contact avec lui pour savoir comment ça allait.
D'où les rencontres, Jean-Christophe Aubin.
Et avec les établissements scolaires.
Au lycée Jean 23, à l'école Sainte-Madeleine,
Notre-Dame-Périer.
Ce contact, père André Daher, vous intéresse, ces contacts avec les autres établissements catholiques, par exemple ici dans le diocèse de Reims? Vous allez aller à Avignon prochainement, mais... Vous allez dire, ça vous réchauffe le cœur aussi, mais on n'est peut-être pas assez encore dynamique pour vous encourager. Il faut peut-être un peu nous secouer aussi.
Certainement, donc, le plus important, c'est mutualiser nos expériences au niveau pédagogique, car vous savez très bien, donc, nos établissements au Liban, en plus du bac libanais, on a le bac français. Donc, du coup, les échanges entre les enseignants, c'est quelque chose de primordial pour nous. Et en même temps, avec donc les parents. Et le plus intéressant et l'aventure, c'est surtout donc avec les élèves. Donc, on a monté pas mal de projets en commun au niveau social, avec les aumôneries, au niveau de la prière pour le temps fort de carême et même à la veille de la fête de la nativité. Et on a reçu, avant les crises, pas mal de délégations des élèves français chez nous pour découvrir un petit peu la vie des chrétiens en Orient et comment ça se passe au Liban. Pareil, des Français ici, ils ont eu la gentillesse d'accueillir au sein des familles et une immersion scolaire pas mal des élèves et surtout des lycéens libanais ici en France.
On a bien compris l'échange entre le Liban et la France, mais père André Daher, on aimerait bien connaître quand même aujourd'hui, parce que vous êtes sur le terrain, la situation exacte des chrétiens d'Orient. On le décrit ici comme une situation quand même relativement difficile, voire tragique dans certains endroits. On ne veut plus de chrétiens en Orient, en tout cas, on les chasse un peu de leur terrain, de leur territoire, qui ont toujours été le leur d'une certaine façon.
Certainement, donc, les crises qui ont touché le Moyen-Orient, le monde arabe, et actuellement, suite au 7 octobre, l'invasion de Hamas en Israël, et ses répercussions néfastes sur le Liban, car le Hezbollah essaye de soutenir ce groupe terroriste de Hamas. Donc, le sud du Liban, et surtout plus qu'une dizaine de villages chrétiens, étaient bombardés par Israël, car les miliciens de Hezbollah a commencé à riposter depuis ces villages-là. Donc, la plupart des villages sont rasés, ce qui a fragilisé encore une fois donc la présence des chrétiens au sud du Liban. Et les chrétiens au Liban essayent, malgré l'effondrement donc du système financier, il n'y a plus de banque, le système politique, la montée des islamistes, de rester là-bas, car nous sommes convaincus que autant on s'est rendu compte que tous nos faux espoirs sont tombés par terre, c'est le temps de l'espérance. Et on a un grand rôle dans ce monde qui est vraiment manipulé par des leaders qui font appel à la violence, d'être des artisans de paix. Même si nous vivons dans un cadre qui n'est pas du tout propice à l'évangélisation là-bas et porter la bonne nouvelle, mais on ne peut pas vraiment baisser les bras ni les croiser et avancer ensemble, car les sunnites au Liban, les chiites au Liban et même les juifs en Israël, ils ont besoin de cette approche autre, une autre option du vécu ensemble et du lien national. Donc du coup, avec nos hôpitaux, avec la mission de l'Église au niveau éducatif et en même temps la proximité avec les gens de toute allégeance et de toute appartenance, même si ces chrétiens souffrent et sont persécutés, mais je vous assure qu'ils sont toujours animés par l'Esprit Saint et avancer ensemble pour proposer la bonne nouvelle.
Pour terminer, parce que le temps passe très vite, Père André Daher, est-ce que vous ne prenez quand même pas beaucoup de risques? Est-ce que quand on dirige un établissement scolaire au cœur du Liban, est-ce que finalement, un jour, vous n'avez pas des... En France, on peut connaître aussi aujourd'hui un certain nombre de risques.
Dans
de
le
risque,
temps, mais... nous étions des écoles privées, mais privées actuellement. Nous sommes des écoles privées, privées de rien, donc on n'a plus rien. Mais avec des gens de bonne volonté, des gens qui croient beaucoup à l'importance de l'éducation, ils nous soutiennent au niveau spirituel, au niveau moral et même au niveau financier. Je ne vous cache pas, avec la pénurie de l'essence, avec l'insécurité, on a beaucoup de courage pour laisser les portes ouvertes, car il y a pas mal de gens qui cherchent à casser la liberté de l'enseignement au Liban, à fermer nos établissements, car pour prendre nos jeunes comme futurs terroristes, des kamikazes, car si on ne fait pas appel à la raison, à la parole, ils seront manipulés par des gourous, par des responsables, des miliciens, et du coup ils seront sur les fronts.
On ne peut bien sûr ici à RCF que vous encourager, nous sommes avec vous modestement. Merci à Jean-Christophe Bobin d'avoir été avec nous.
Merci Jean-Christophe de nous avoir accueillis.
Et puis j'espère, vous aurez peut-être l'occasion de revenir, peut-être un petit peu plus longuement, dans cette terre de Champagne-Ardenne. Merci en tout cas, merci de tout cœur avec vous, dans l'aventure pédagogique d'éducation que vous conduisez et Amen. Peut-être aussi que vous conduisez avec
et
beaucoup de difficultés.
Je vous assure que le Christ ressuscité et les vivants, même dans un monde qui en prolifère la culture de la mort.
Merci Père André Daher. Au revoir.
Merci.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h52, sans transition ou presque, on parlait tout à l'heure de bien boire, on va aussi bien manger avec la fête de la gastronomie de Cézanne qui remet le couvert dans la petite cité de caractère en Champagne. Cette fête revient à Cézanne du jeudi 11 au dimanche 14 avril. Au micro de Christian Lancio, notre correspondant RCF Cœur de Champagne, Sacha Ewak, le maire de Cézanne, nous dévoile le programme de cette nouvelle édition.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour cher Christian.
Je crois que le mois d'avril est bien rempli.
Oui, tout à fait, puisque ce week-end spécifique qui va suivre sera le week-end de la fête de la gastronomie sur Cézanne. Mais avant de vous en parler plus précisément, je voudrais vous parler de l'inauguration donc du village étape qui aura lieu justement le week-end, le samedi 13 avril, lors du week-end de la fête de la gastronomie.
Donc samedi prochain.
Tout à fait, samedi prochain, à partir de 11h, au niveau du prétoire, donc avec la présence du président des villages étapes, Bertrand Olivier, maire de Joinville. Donc on a lancé les invitations sur l'ensemble des personnalités locales, monsieur le préfet, sénateur, député, conseiller départementaux, etc. Et ce sera un moment important pour nous, puisque même pour ceux qui aujourd'hui ont vu l'implantation des panneaux le long de la RN4, officiellement nous n'avons toujours pas inauguré ce label.
Alors c'est quoi le label Village Étape?
Alors le Village Étape, c'est un label donc national qui est possible d'être décerné pour les communes qui sont le long d'une route nationale, qui ont moins de 5000 habitants et qui disposent d'équipements et de services de qualité et en nombre qui justifient un arrêt potentiel par un usager de la route, qui est certain lorsqu'il sort du label, qu'il sort du, de la route vers la commune labellisée village étape, il est certain d'avoir, si c'est indiqué sur le panneau, une pharmacie, un point pour recharger le carburant, éventuellement une aire de pique-nique, une aire de camping-car, etc., ce qui est le cas à Cézanne.
Ou un fleuriste, quelquefois.
Tout à fait un fleuriste, puisque c'est bien ça l'idée. En admettant que vous partez d'Île-de-France, donc de Paris, vous avez oublié que vous deviez ramener un petit bouquet de fleurs chez la personne qui vous invite. Et voilà, donc dimanche matin, vous vous arrêtez, village étape, Cézanne, vous êtes certain d'avoir le fleuriste ouvert le dimanche matin.
Il y a quelques années, vous aviez été labellisé petite cité de caractère. Alors, c'est quoi la différence ?
Alors, en fait, ce sont deux labels complémentaires. Donc, l'un, le petite cité de caractère, est une marque. Et là, effectivement, aujourd'hui, Village Étape, c'est un label. Et la grosse différence, pour faire simple et pour résumer, on va dire que la marque petite cité de caractère reconnaît la mise en valeur d'un patrimoine, d'une histoire, d'animation sur le territoire, donc de la commune, et qui est plus destiné à une revalorisation, on va dire, de l'attrait touristique, avec comme levier, effectivement, la venue de nombreux touristes avec la reconnaissance de cette marque petite cité de caractère.
Avec peut-être une connotation plus culturelle, quoi.
Voilà, plus culturelle, plus patrimoniale, plus historique, plus touristique. Et le label, pour le coup, Village Étape, lui, a plus, on va dire, une connotation économique, commerciale pour l'usager de la route qui sait que si effectivement il sort dans la commune labellisée, il y aura les services qui sont indiqués sur ce panneau. Donc ce sont deux, on va dire, labels pour résumer, qui sont complémentaires.
Bien, donc ça, ce sera donc le samedi 13 avril. Et donc, vous nous avez dit que ça allait être dans le cadre de la fête de la gastronomie.
Oui, tout à fait, puisque tous les ans à Cézanne, nous mettons en place la fête de la gastronomie. Et c'est un grand week-end, puisqu'elle commence généralement le jeudi. Donc là, ça commencera le jeudi 11 avril. Et la première manifestation sera une projection au cinéma Le César d'un film intitulé « La passion selon Dodin Bouffant » avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Donc toujours des films qui ont évidemment un rapport avec la gastronomie.
Un film gratuit.
Oui, tout à fait. C'est un partenariat que nous avons avec le cinéma de César et nous tenons à proposer ces animations gratuites, donc ce qui est effectivement une marque de fabrique de Cézanne, puisque les animations sont généralement gratuites.
C'est gratuit, mais il faut réserver.
Il faut réserver en mairie, puisque si le cinéma a suffisamment de place et que ça dépasse par contre le nombre de réservations, nous ne pourrions pas accueillir tout le monde. Donc il faut absolument réserver en mairie, aussi bien donc pour le cinéma Le César que pour le repas métissé, qui aura lieu le lendemain au prétoire à 19h. Donc c'est un repas que nous mettons en place avec l'association CZ et les familles de migrants. Donc là, pour le coup, il faut réserver en mairie et le coût de ce repas est de 8 euros.
D'accord. Et ça, c'est donc le vendredi 12.
C'est le vendredi 12, donc, qui sera donc à 19h au prétoire. Et ensuite, à 21h, nous aurons la chance de vous proposer un spectacle gratuit proposé en partenariat avec le Salmanazar d'Épernay, avec un spectacle intitulé « Entrée, plat, fromage, dessert, formule complète et roborative » par la compagnie La Pièce Montée. Donc on ne pouvait pas trouver mieux comme intitulé.
Alors donc là, on est donc le vendredi 12. Le samedi 13, on en a parlé, donc c'est la labellisation. Et puis alors après, il y a le 14.
Voilà, et donc on termine toujours sur une note festive et musicale, le dimanche 14 avril, toujours en rapport avec la gastronomie. À un moment festif de 11h à 13h30 sur le Mail de Marseille, avec ce que j'appellerais un déjeuner dominical où nous vous proposons de partager aussi bien en famille ou entre amis un apératif avec des produits de notre terroir, achetés notamment auprès des producteurs locaux.
Eh bien voilà un beau programme qui nous met l'eau à la bouche. Je ne sais pas vous, Jean-Pierre, mais je vous connais aussi gourmand et je me dis que c'est pas mal d'aller faire un tour du côté de Cézanne le week-end prochain.
Absolument, c'est une très très bonne idée.
Mais il y a aussi de belles balades à faire du côté des Ardennes, du côté de la Marne, du côté de l'Aube évidemment, du côté de la Haute-Marne, etc.
Surtout quand il y a du soleil, que les jours allongent. C'est une très très belle région, notre Champagne-Ardenne. Il faut qu'il fasse beau.
Effectivement, et pour l'instant, le soleil est au rendez-vous, même si aujourd'hui ça a été un petit peu mi-figue mi-raisin. On a eu du soleil en début de journée, de la pluie après pour nous accompagner. éloigner. Et puis finalement, le soleil est là pour ce 18-19 en Champagne. Donc peut-être que demain, on va aller vers des tendances similaires, Jean-Pierre.
Oui, demain, c'est sûr, tendance similaire. Mais bon, on a dit que ça changeait un petit peu. Mais enfin bon, en tout cas, on va vers le bien.
On va vers le bien et ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain à 18h10 et puis dès 7h du matin avec vos différentes rédactions locales pour l'information sur RCF France-Ardennes, celui que vous retrouverez aussi dans le magazine régional demain soir, et Marc Besancenet, directeur du lycée Jean 23. Il parlera du projet Kilimandjaro. On a tous une montagne à gravir, avec un rendez-vous qu'il vous donnera pour ce week-end également. Merci Jean-Pierre, merci Thierry qui était à la réalisation. Et puis on se dit à demain 18h10.
À demain.